C'est ça. Donc ça change au cul de l'église.
Au cul de l'église.
Je suis religieux, moi.
Au cul de l'église.
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 Du cul de l'église, ouais.
Au cul de l'église.
Au cul de l'église.
Tu veux que je dise quelque chose dans ton micro ?
Au cul de l'église.
Au cul de l'église.
Prêt, les gars ? Ouais, ouais, ouais.
Allez, au cul de l'église.
On est parti
pour l'émission qui va tuer du Dieu. Le cul de l'église.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ici le cul de l'église en direct des studios de Radio Saint-Aff. On espère que vous allez bien, que vous allez mieux que Jean-Marie Le Pen qui est en ce moment à l'hôpital, apparemment sur son lit de mort.
Oh, ouais, la bonne nouvelle.
Voilà, donc alors avant de commencer cette émission, moi je propose...
Un toast.
Je propose qu'on se dise, si Jean-Marie Le Pen meurt, le lendemain on se retrouve à 19h, place de la mairie, pour un apéro géant.
Ouais.
Et faire la teuf.
Ça peut être pas mal.
Voilà, bon alors après, c'est un petit peu une info à mesurer parce que c'est son avocat qui l'a mis en avant. Et en fait, son avocat il dit ça parce que Jean-Marie Le Pen il est à l'hôpital pour une grippe. Non, un truc persil. Un truc à la con.
C'est parce qu'en
fait. Non, c'est pas très grave parce qu'en fait, juste il est en procès en ce moment. Donc du coup, comme il veut pas aller à son procès, du coup il reste à l'hôpital. Du coup, son avocat dit qu'il est en train de mourir.
Ah ouais, ok, il fait Chirac, genre
il est en procès pour injure publique envers les personnes homosexuel, il a dit, les homos, c'est comme le sel dans la soupe, s'il n'y en a pas assez, c'est un peu fat, s'il y en a trop, c'est imbuvable. Voilà, c'est 2016, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Bonsoir à toutes et à tous, amis chroniqueurs et chroniqueuses. Comment allez-vous, tout le monde ?
Eh ben, ça va la patate, hein ?
Très bien, très bien.
Très bien. Alors, du coup, Auréline, tu vas nous parler de quoi, toi ?
Du loup.
Aou !
Aou !
Vince, tu vas nous parler des...
je reviendrai sur mon sujet d'il y a deux semaines, en fait, la chasse.
Ok, il n'y aura pas de lien entre les deux papiers.
Non, pas
aucun.
Du tout.
Et puis, quant à toi, Yves.
Moi, la République française.
La République française. Eh ben, c'est plutôt cool de parler de la République française. Moi, je vais vous parler de l'Aquarius. Voilà.
L'église.
Yeah, yeah, yeah. Donc vous êtes bien à l'écoute du cul de l'église sur Radio Saint-Aff. Nous sommes jeudi soir, il est 20h, chaque semaine on se retrouve en rediffusion le dimanche vers 18h, 19h, quelque chose comme ça, ça a changé, voilà. Bon, vous pouvez nous écouter en podcast aussi sur radiosaintaff.com et on va commencer, on a dit qu'on commençait avec Vince.
Je crois que c'est ce qu'on avait dit, ouais.
Et bah voilà, et bah c'est parti, générique s'il te plaît Jean aux platines.
Il y a des oiseaux sur cette planète même depuis l'archéopteryx. Il ne semble-t-il pas étrange qu'ils aient attendu tout ce temps pour déclarer la guerre à l'humanité?
Je crois que c'est vous qui êtes la cause de tout cela.
Je n'arrive pas à croire que quelques oiseaux peuvent nous amener la fin du monde.
Je crois que vous êtes le diable. Le diable.
Et voilà, donc au risque d'en froisser encore un ou deux au passage, je tenais à revenir brièvement sur mon papier de la dernière fois, la rentrée des chasses.
Tu es vraiment subversif.
Tu disais quoi, parce que je suis désolé.
Bah, attends. Bah ouais, en fait, il y a deux semaines, je n'ai pas pu parler de choses qui me tiennent à cœur lorsqu'on en évoque nos premiers écologistes de France. Faut dire qu'il y a quand même vachement à dire sur le sujet. Donc la dernière fois, pour toi entre autres Aurélie, qui n'était pas là, on a notamment parlé de l'inutilité écologique avérée des chasseurs, des 30 millions d'animaux abattus par saison de chasse, des 64 espèces d'oiseaux chassables en France contre 12 dans les autres pays européens, des 20 espèces menacées pourtant chassées, et bien évidemment de l'asticage de crosse pratiqué avec engouement par Macro & Co. auprès des fous de la gâchette. Voilà, voilà. Tout cela a été largement visible ces derniers mois sur la scène médiatique et on ne reviendra pas sur les nombreux cadeaux octroyés cette année aux amoureux de la galinette cendrée.
C'est un galop.
Ça fait encore.
Bah non, c'était Gérard.
Alors, en écho et tout là.
En écho, ouais, bon, une virgule un peu bizarre, je sais pas, il y a un souci sur le stéréo. Bref, côté non-chasseurs, ce qui représente tout de même la bagatelle de plus de 65 millions de personnes, on estime que 73% des gens qui se baladent en nature ne se sentent pas en sécurité en période de chasse. Quand même. Franchement, on se demande pourquoi. Moi, je pose la question aussi.
Moi, la dernière fois, j'ai croisé un chasseur sans chasuble, là, bah, tu te dis, ouais, quand même.
Attends, mon gars. Que nous disent les chiffres ? Que nous disent les chiffres ? Cette insécurité décrite par les écolos bobos à deux balles et anti-chasse de la première heure. Eh bah, ben, en fait, c'est qu'ils auraient plutôt raison, ces cons-là. Pour la saison de chasse officielle 2017-2018, ont été enregistrés quand même 115 accidents de chasse. Et ouais, tout de même. Dans le détail, ça donne ça. Pour les morts, on est à 10 chez les chasseurs et 3 chez les non-chasseurs. Pour les blessés, le score est de 89 contre 14 en faveur des chasseurs. Bon, quand même, faut pas déconner.
Chasseurs, tu veux dire que les chasseurs préfèrent se tirer dessus que tirer sur les autres ?
Ouais, possiblement, ouais. Ouais. Bon, ils sont quand même plus sur le terrain, hein, faut avouer. Bon, on avouera aussi que ça fait quand même un paquet de bavures sur 6 mois de chasse. Franchement, les gars, sacré score, hein, putain. Donc ça, c'était pour les humains tirés par accident en activité de chasse. Regardons maintenant les chiffres pour nos amis les bêtes.
Ouais. Tu veux que je dise quelque chose dans ton micro ?
Vraiment, c'est bien. Après quelques recherches sur la toile, on trouve le chiffre très explicite de 522 000, oui, vous avez bien entendu, 522 000, qui correspond à l'effectif d'oiseaux protégés tués chaque année en France par les chasseurs. Ça nous donne en fait le ratio d'un oiseau protégé tué toutes les minutes dans notre beau pays des amoureux de la nature. Wow. Bref, c'est franchement pas glorieux, à tel point que ce triste score place la France dans le top 10 des plus gros pays de braco du bassin méditerranéen. Oh la belle place, oh le titre glorieux. Et ouais, aux côtés de la France, on retrouve des pays comme le Liban, l'Albanie et la Grèce. Dans les espèces protégées, tirées par les chasseurs, on trouve des espèces de canards menacés, de nombreux passereaux comme les rouges-gorges ou les chardonnerets, et les maléfiques et très dangereux becs crochus, ou rapaces pour les gens normalement constitués. Ces derniers, les rapaces, au rôle écologique bien supérieur à celui des chasseurs, payent malheureusement un lourd tribut dès l'ouverture de la chasse qui correspond à la période de migration pour pas mal d'espèces. Ainsi, chaque année, les centres de sauvegarde de la faune sauvage reçoivent pléthore de rapaces plombés, comme des circaètes et des bondrées. Cette année, dès le premier jour de l'ouverture, c'est un flamant rose retrouvé criblé de plomb à la Grande Motte qui faisait la une d'un journal local.
Pour aller tirer un flamant rose quand même...
Soit le mec était complètement bleu, soit il l'a fait volontairement. Et du coup, petit indice, l'oiseau protégé et porteur de bagues couleurs a été abattu avec un silencieux en bordure d'un espace naturel protégé.
Tous ensemble, on va faire n'importe quoi.
Avec un silencieux.
Avec un silencieux, ouais. Tu te rends compte quand même, c'est fou.
Il a pas fait exprès.
Non, c'était sûrement pas volontaire. Voilà. Et régulièrement, il y a aussi des accidents impliquant des chevaux, poneys ou autres vaches et cochons d'élevage. Dans ces cas-là, la majorité des chasseurs expliquent avoir vu dans leurs lunettes ou leurs mires ce qui ressemblait à un cervidé. Oui, j'en ai lu plein de témoignages. C'est dommage, j'ai pas réussi à trouver des chiffres sur ça, mais à voir l'actualité des associations dénonçant les travers de la chasse, on peut estimer que plusieurs animaux d'élevage se font tirer chaque semaine en France dans des circonstances plus qu'opaques.
L'église. Un cochon avec des bois.
Ouais. Ou un cheval pris pour une biche, tu vois, ça fait juste 500 kilos d'écart, quoi, une demi-tonne, enfin voilà. Bref, alors on en est où cette année avec tout ça, hein? C'est un peu la question quand même.
C'est la question, et on peut te la poser, on en est où cette année, Vince?
Bah ouais, et ben cette saison s'annonce très belle, puisqu'elle démarre sur les chapeaux de roue avec tout de même 6 morts depuis le 15 août. Rassurons-nous un petit peu en précisant que 5 d'entre eux étaient des régulateurs de la nature. Plus glauque, une gamine de 10 ans, attention ça pique, a été gravement blessée au thorax le 16 septembre lors d'un pique-nique familial au bord d'un étang. Oui. Plusieurs faits divers du style « une balle de fusil traverse sa véranda pendant qu'elle était dans la cuisine » sont également répertoriés depuis l'ouverture. Pas mal. Côté équin, on en serait à une demi-douzaine de chevaux biches abattus depuis le 1er septembre. On est quand même début octobre. Et au passage... Vous savez ce que ça coûte de buter un type qui courait sur un chemin forestier d'une balle en pleine tête quand on a un permis de chasse ?
Ben non, on ne sait pas.
Eh bien d'après le jugement prononcé le 27 septembre, donc c'était il n'y a pas longtemps, 2018, par le tribunal correctionnel d'Annecy, pas bien cher. Un en ferme et deux avec sursis.
Hey, le poulet, il se tire, le poulet, attrapez-le. Hey, allez, merde, hey, rattrapez-moi ce putain d'enfoiré de poulet, veniez-vous. Bougez votre cul, bordel.
Et on finira ce papier par un énorme...
C'est quoi un cheval biche ?
Un cheval biche ? Putain, Jean fait une intervention pendant un cul de l'église. Vas-y, vas-y. Un cheval biche, bah justement,
et bah, c'est un cheval qu'un chasseur a pris pour une biche.
Voilà. Tu vois?
Ah.
Et ouais, c'est pas un croisement. Hein,
ah, je pensais que c'était ça, mais je me suis dit.
C'est ce que
quand
tu
même,
trouves en fait dans les canards un peu du coin, tu vois, à droite à gauche, des fois le dimanche, le lundi plutôt quand ça sort, que les mecs ont confondu. Voilà.
Un chebiche.
Un chebiche.
Un biche.
Ou un valcheux.
Un valbiche.
Ou un bival.
Bref. Et donc on finira ce papier par un énorme big up. À Dédé.
Gros big up. Dédé.
Dédé. Big up Dédé, tu vois. Qui à l'âge de 93 ans a repris pour la 76e année son permis de chasse. Mais oui. Dédé dans un
c'est
interview.
C'est quoi, c'est le record?
Laisse-moi finir. Dédé dans un interview accordé à un torchon du Sud-Est aurait dit: oh, pensez-vous, avec moi, les sangliers sont tranquilles. Je ne suis plus aussi efficace qu'avant. Sacré Dédé, putain, il est bien bon. Hein. C'est sûr que ce sont plutôt les promeneurs qui ont du souci à se faire avec toi, mon loulou.
Et bien voilà, c'est fini le papier.
Ouais, c'est fini le papier. J'ai dit c'était court. Ouais.
Ok. Et voilà. Tu n'as pas choisi de musique cette
fois-ci.
Et ben alors Jean a choisi une musique pour toi. Non,
c'est vrai,
Jean n'a pas choisi de musique.
Il est génial.
Jean, alors dis-nous quelle musique tu as choisi.
Jean. Merci Jean, tu es un merveilleux.
Non, il ne dira pas quelle musique
après
il a choisi.
Ah si, c'est si. Coups Guérilla.
C'est bien le titre, me plaît. Vas-y, on voit la sauce.
Allez, c'est parti, mon kiki.
I sharpen my weapon, pass on the lesson. And if you need to lose off the arts, then my question saying, why do you lie to me? Must think I'm a fool. Yes, I hear your love when I'm stepping. But who gon' get that lost love you reppin'? It's a whole different class that we're reppin', and a different type of chance that we're taking. So it's best you just start running. Gorillas them coming, herbs I'm burning. Helps me relax and hold my meds. So don't try test, might just lick off your head. And now this Babylon stress, cause they left us for dead. Why do you think we live this way? Looking in the sky and all the weather's always gray. It's coming like this cloud is following me. Yeah, that's why I have a sharpen my weapon. Pass on the lesson. And if you need to tell me after, ask them a question saying, why do you lie to me? Must think I'm a fool. Yes, I hear your love when I'm stepping. But we won't get that lost love you reppin'. It's a whole different class that we're reppin', and a different type of chance that we're taking. That's why we have to fight like there's no tomorrow. Shoulder sharper than the mask of Zorro. Double-edged, deadlier than blasting hollows. Forecast tomorrow's doom as chemical clouds loom. Playing these loud tunes in rooms filled up with loud fumes. I pound buffoons, concrete jungle with gorillas and baboons. Transformed into killers in these cocoons. What a coon, I ain't willing to resume an estate. I'm trying to light up my mind, body and soul till I'm illuminously great. Fuck consuming all this fake shit, I hate this. Living in this matrix with these racists on basics. Might kick a man with these A6, stick a man for his payslip. Look at how they got us moving and nobody says shit. I sharpen my weapon, pass on the lesson. Anything they tell us after arts, then my question saying, why do you lie to me? Must think I'm a fool. Yes, I hear your love when I'm stepping. But we gon' get that lost love for repping. It's a whole different class that we're repping, and a different type of chance that we're taking. So it's best you just start running. Gorillas them coming, herbs I'm burning. Helps me relax and hold my meds. So don't try test, might just lick off your head. And now this Babylon stress, cause they left us for dead. Why do you think we live this way? Looking in the sky and all the weather's always gray. It's coming like this cloud is following me. Yeah, that's
while I have a sharp on my weapon. Pause on the lesson. Anything they tell me after, ask them a question, saying, why do you lie to me? Must think I'm a fool. Yes, I hear you laugh when I'm stepping. But who gon' get that lost love for repping? It's our own different class that we're repping, and a different type of chance that we're taking. Gorillas coming now. Gorillas coming now. Gorillas coming now. Gorillas coming now. Gorillas coming now.
Fire burning light. We on another high, another high. Yeah, we living life, living life. Everything's alright, things alright.
Yes, vous êtes toujours à l'écoute du cul de l'église avec Co-ops. Merci Jean pour la sélection. Ça vient de sortir ça ou quoi? C'est récent?
Et oui, oui, tout à fait.
Et ben voilà, on a les dernières nouveautés fraîches. C'est très très bien. Mais Vince, mais parlons-en des chasseurs. Alors qu'est-ce que
si
t'en penses de ces, de ces accidents
moi,
de chasse
pareil,
maladroits?
Tu vois, j'ai deux petits terrains vers chez moi, mais quand ils sont là, je sais pas, tu sais,
je sens pas serein,
je suis pas serein. Moi, c'est bien, en général, ils se garent là où je me gare aussi, donc je suis au courant s'ils sont là ou pas, tu vois, mais bon, je suis pas serein.
Après, moi, pour le vécu, dans l'Aveyron, les chasseurs, ils venaient vraiment en meute, quoi. Il y a des 36 pour deux sangliers, enfin, il y a trop de sangliers et tout, je suis d'accord, mais être 36 contre deux sangliers, il y a quand même une... voilà, c'est plus de la chasse, en fait.
Il y a un peu trop d'humains, quoi.
Ouais. Bah, c'est plus de la chasse où t'es tout seul, où t'as le côté là, c'est, t'es à 40 contre une bête.
Ça, c'est débattu, ouais, parce qu'ils sont, ils focalisent sur les populations de sangliers, et leur argument c'est de réguler du coup ces populations. Mais en fait, elles sont aussi entretenues d'un côté, donc ça, en fait, ça tient pas écologiquement parlant, oui, leur truc. Ouais. C'est ultra bancal. Et...
Bah, s'ils mais avaient pas croisé à la fois, il y en aurait.
Oui, s'ils avaient pas croisé, s'ils faisaient pas des souilles, s'ils agrénaient pas, tu vois, s'ils parquaient pas certaines zones pour que ça fasse genre de population a pris lâche sur d'autres secteurs, ce qu'ils font régulièrement, tu vois. Carrément des semis qui viennent en Belgique relâcher des centaines de cochons par an, tu vois, qui viennent.
C'est ça, et après ça pose des problèmes dans les champs et tout ça.
C'est juste scandaleux en fait. Enfin, ils ont aucun rôle écologique à tenir. Point barre, ça c'est clair.
Surtout pas en 4x4.
Et encore moins en 4x4.
Okay.
Mais bref, en fait, moi ce qui me chagrine surtout là-dedans, c'est qu'il y a quand même des mecs qui se trimballent avec des fusils. Et des fois, parmi eux, il y a des gars de plus de 80 ans. Là, tu vois, on parlait de Dédé parce que j'ai pas voulu donner son nom et prénom parce que c'est vraiment un article qui est vraiment paru dans la presse. De je sais plus quoi, la Provence ou truc, quelle merde du sud-est là-bas, Cato intégriste. Bref. Et du coup, donc le mec fait clairement l'interview en disant oui, moi je prends mon permis de chasse à 93 ans. Et alors, ça fait 76 ans que je chasse. Je suis quand même moins vif qu'avant, donc les sangliers maintenant ils sont tranquilles.
Ouais, mais d'accord. est-ce qu'il doit repasser son permis?
Tu es en train de nous dire que tu sais pas tirer.
Tu achètes juste ton permis de chasse.
Quand tu fais le permis de chasse, t'as des tests. C'est pas t'achètes le permis et tu l'as.
Au début.
Il y a des gens qui
Mais tu sais, c'est renouvelé quoi.
Oui, mais est-ce que justement t'as ces tests d'aptitude qui sont renouvelés quand t'as 4 ans?
Non, parce que justement, un des moratoires, si on peut dire, qui est demandé sur la chasse, tu vois, par pas mal d'associations de protection de l'environnement depuis de nombreuses années, c'est justement de faire un contrôle du coup d'aptitude passé un certain âge, parce qu'il y a pas mal de vieux qui se trimballent avec des fusils chargés et
comme
qui sont incapables. Carrément.
Y en a qui auraient pu être là ce soir qui se sont même fait déjà tirer dessus par des chasseurs. On en parlera dans une prochaine émission. on continue cette émission peut-être, non? C'est parti.
Tu veux que je dise quelque chose dans ton micro?
Et bonsoir.
Et bonsoir.
Donc ce soir, je voulais vous parler du loup, pas en tant que spécialiste, parce que je ne le suis pas du tout, mais à partir de mon expérience que j'ai vécue cet été en montagne dans les Hautes-Alpes. Donc en fait, je suis partie travailler sous différents statuts. D'abord, j'ai fait un stage avec Pôle emploi, mais bon, je ne vais pas développer tout ça ici.
Pourquoi donc ?
Non. Alors, j'arrête tout de suite cette mascarade. On ne parle pas de Pôle emploi ce soir. Pas toi, Aurélie.
Non, mais c'était un statut, voilà. Okay. Et puis après, je suis allée travailler comme aide berger. Je dis bien aide berger, pas aide bergère, parce que pour le coup, c'était des bergers. Donc, comme aide berger dans le Kera. Donc, aide berger.
Dans le Kera.
Pas très loin d'Italie, quoi.
Ouais.
Et donc, c'est un statut qui a été créé il y a à peu près 6-7 ans, quand il y a eu vraiment la réapparition du loup et la problématique du loup dans les montagnes. Et en fait, le salaire, il est financé à 80% par le plan loup, donc par les impôts des Français. Et donc, ça, en théorie, l'aide-berger, il est censé pallier au surplus de travail qu'occasionne le loup, c'est-à-dire faire les parcs de nuit, nourrir les patous, etc., etc. Et en fait, en pratique, c'est une manière de se former aussi sur le tas et d'apprendre à garder, etc. Donc voilà, c'est à ce moment-là, alors que j'étais aide berger dans le Kera, que fin juillet, pour la première fois de ma vie, j'ai vu le loup.
Aouh !
Aouh !
Aouh ! Aouh ! Ok, voilà. On a fait la virgule.
Virgule loup. Donc alors, pour vous refaire un peu l'historique, c'était avec un berger, on venait d'arriver, il se partage l'estive avec un autre berger, et donc il y avait 2000 brebis, c'était le premier jour de garde, et là, il me fait « il y a le loup ». J'ai cru qu'il se foutait de ma gueule, quoi. Il y a le loup, c'est la montagne. Et je le vois qui commence à courir comme un fou et à faire « waouh, waouh, waouh », à crier, donc je le suis. Et on arrive à 10 mètres face à face du loup qui avait un agneau dans la gueule. Et donc là, moi, je me mets par réflexe à crier « lâche !» Et là, le loup a lâché l'agneau et l'agneau a rejoint le troupeau. Et le
c'était
loup
un chien, en fait, tu te fous de notre gueule.
Non, c'était vraiment un loup. C'était vraiment un loup. Et là,
il a tout à fait compris, en fait, c'était un chien domestique.
Non,
c'était d'ailleurs, c'est
un petit loup, mais qui avait donc prélevé dans le troupeau sur les 2000, tu vois pas forcément. Et pour te dire, il y avait quand même 4 patous et on était 2 êtres humains là. Donc, on dit les patous et la présence de l'homme, mais ça, enfin, pour le coup, en pleine journée, ça c'est pas suffisant, quoi. Donc après, j'ai fait un peu ma crâneuse dans la montagne. J'ai vu le loup et tout. Je vais faire dresseuse de loup. Là, les éleveurs, ils m'ont dit, moi, le loup, je l'aime, mais juste dans mon viseur. Voilà, je me disais, okay. c'est un peu abusé, tout ça. Et donc, j'ai continué. Donc, suite à cette histoire de loup, le PNR a été prévenu, machin, et j'ai eu le droit à voir les louvetiers. Alors, les louvetiers, en fait, c'est des chasseurs qui... c'est un statut qui a été créé, j'ai regardé, depuis Napoléon, ça existe. Mmh. C'est les anciens lieutenants de louveterie qui sont assermentés pour avoir le droit de tuer le loup parce qu'il est protégé par la Convention de Berne au niveau européen. Mais au niveau français, il y a le droit à il y a des dérogations pour, dans certains cas, cette année, c'était 43 tirs de loup. Donc, il y a un quota maximum à pas dépasser pour tirer le loup. Et donc, voilà. Il y avait ces lieutenants qui étaient... il y avait la cabane du berger. Moi, j'avais une caravane. Et eux, ils étaient à genre quelques mètres en dessous dans leur 4x4. Et à tous les soirs, ils avaient la caméra infrarouge à viser le loup. Et puis voilà, c'est ce que je vous racontais en antenne, c'est que moi, j'étais pas du tout rassurée parce que ces lieutenants de louveterie, ça avait l'air de gros lourdeaux, quoi. Enfin, je dis pas que ça allait tous, mais là, pour le coup, les deux, c'était des gros lourdeaux. Et moi, la nuit, ils me faisaient plus peur que le loup, quoi. Donc voilà, j'ai eu le droit à ça. Et puis, après, j'ai enchaîné sur un autre contrat d'être berger avec un autre berger dans le Kera, avec cette fois-ci 3200 brebis. Donc encore un plus gros troupeau. Et donc, dans ce troupeau-là, même si j'étais aide berger, je me suis retrouvée à regarder toute seule le troupeau. On se partageait un peu le travail. Et donc, c'était pas simple. Hein. Je suis un peu perdue dans mes papiers. J'essaie de retrouver. Voilà. Là, on était vraiment à côté de l'Italie. Donc, là, le flip, c'était déjà que les brebis, elles se barrent pas du côté de l'Italie parce qu'elles n'ont pas leurs papiers. les migrantes.
Les brebis sans papier.
Pour les retrouver, c'est plus compliqué. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Sur un gros troupeau comme ça, c'était. Donc, voilà. Ce qui est compliqué sur un troupeau, mais qu'il y en ait 2000 ou 3000, c'est encore plus compliqué. C'est que du coup. elles font des lots, elles se scindent en deux, en fait. Au bout d'un moment, tu es sur ta montagne au-dessus, et tu vois, il y en a qui partent à droite, et puis les autres qui partent à gauche, et les autres qui partent devant, et les autres de l'autre côté. Toi, tu es toute seule, tu as un chien qui n'est pas dressé, donc enfin, qui travaille de près, donc tu ne peux pas l'envoyer, tu es obligé de choisir. Et là, tu te dis, est-ce que je prends la main, l'autre main, la tête, la queue, le pied gauche, le pied droit ? Comment je fais pour rassembler tout ça et pas qu'elle se barre dans tous les coins, quoi. Donc forcément, bah, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu cours. Les brebis courent très vite, mine de rien. J'ai découvert ça malgré moi cet été. Et voilà, je passais mes journées à courir derrière ces brebis. Et en fait, au bout d'un moment, en plus, le berger s'est barré. Donc j'étais toute seule avec ce gros troupeau à gérer. Et donc moi qui avais été... Enfin, toujours, pour moi, le loup, ça représentait quelque chose d'un peu mystique, en fait, comme beaucoup de gens. C'est un peu le dernier bastion, le dernier reine de la sauvagerie. C'est la biodiversité, tu vois. Il y a des parcs, bon, bah voilà, t'es payé là pour ça, pour faire les parcs. Il y a des patous. Après, c'est ce qui est compliqué avec les patous, c'est qu'il y a les touristes et tout ça. Mais, bon, pour le coup, c'était des patous gentils. Et ça fait partie du travail, quoi. Sauf que... Comme le berger, il est parti, là, je me suis vraiment retrouvée... Enfin, j'ai fait une ascension sociale. Je suis passée du statut d'aide-berger au statut de bergère. Et là, tu as la responsabilité du troupeau que les brebis soient en bonne santé, que tu n'en perdes pas dans la montagne. Et donc là, tu as une espèce de responsabilité qui est compliquée parce que tu te dis si elles font des lots, que tu n'arrives pas à les retrouver, elles passent un col ou elles passent ici ou là... Et que en fait dans la nuit il y a une attaque de loup. Déjà tu te sens un peu coupable, ou c'est peut-être moi en tant que débutante qui me sens coupable de pas avoir réussi à gérer tout ça. Et en plus si t'as les vautours qui viennent après manger les carcasses, et ben tu peux pas faire de constat. Et donc pas de constat, pas d'indemnisation et la culpabilité de te dire voilà j'ai laissé des brebis traîner dans la montagne, merde quoi, ça fait chier. Et c'est à ce moment-là où j'ai un peu changé d'avis sur ce côté, la relation avec le loup, qui est hyper compliqué, quoi. En montagne, les éleveurs sont très « le loup, moi je veux le tirer, c'est un truc à éradiquer ». Aujourd'hui, j'en suis pas à me dire ça, mais je me rends compte que ça génère un stress qui est pas facile dans déjà un milieu, un endroit où tu es isolé, où tu travailles et où tu as ce... Enfin voilà, t'as une espèce de fossé qui se creuse entre... Moi, j'ai fait des repas avec les bergers, mais c'était des discours hyper radicaux, quoi. Ouais, les écolo-bobos, ils nous font chier à vouloir tuer le loup et tout ça. Et puis, quand tu le vis au quotidien, tu te dis que c'est quand même pas... c'est pas si simple, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Alors là, j'ai continué avec le loup qui était présent. J'ai plus les chiffres, mais y a quand même donc beaucoup d'indemnités pour le loup. C'est-à-dire quand tu as une attaque de loup, tu as un truc qui s'appelle la prime de stress. Chaque éleveur, il va, même si les brebis sont pas à bouffer, il va toucher une prime de stress. Toi, en tant que berger, t'as pas de prime de stress. Tu es payé pareil. Donc ça, c'est déjà une petite injustice. Hein. Au-delà de l'histoire financière qui est liée aux primes, parce qu'il y en a beaucoup, les patous, ils sont payés par le plan loup, les filets, ils sont payés par le plan loup, les aides-bergers sont payés par le plan loup. Mais c'est pas qu'une histoire de thunes. Et j'en ai parlé un peu après avec des éleveurs et ça leur fait chier de savoir que les brebis ont été bouffées par le loup. Même si, au bout du compte, elles vont être tuées pour être mangées par les humains, ben voilà, ça les fait chier de se dire que les brebis ont été bouffées par le loup. Donc, tout ça pour vous dire que... je me retrouve dans les papiers. La problématique du loup, elle est pas simple. La cohabitation, elle n'est pas simple non plus. C'est-à-dire que, après ça, j'ai vu aussi des bergers qui se sont mis à garder avec le fusil sur l'épaule. Le fusil, ça pèse lourd. De trimballer un fusil toute la journée en montagne sur l'épaule, ça fait chier aussi, quoi, parce que tu tombes, machin. Enfin, voilà, c'est pas le métier des bergers que d'aller tuer le loup. Les lieutenants de louveterie, ils inspirent pas confiance, donc c'est pas non plus comme ça. Et il y a eu des constats avec les gardes du parc qui expliquaient que aussi, ben, tuer un loup, en fait, t'éclates des meutes et des fois t'as des résultats qui sont pires, quoi, parce que
très souvent, oui.
Mais en même temps, les personnes qui sont confrontées à ramasser tous les jours des dizaines de cadavres et tout ça, ben elles arrivent pas à rester, voilà, impassibles face à ça, quoi. Genre, il y en a, et ben, moi j'ai entendu des histoires de bergers hyper pacifiques qui sont retrouvés avec leur bâton de berger à tuer un loup à coups de bâton, alors que jamais ils avaient tué un animal, jamais ils étaient... Et donc on peut en discuter maintenant, hein, ou après, mais vas-y.
Parce que tout à l'heure, tu parlais des effectifs, par exemple, qui sont gardés par une ou deux personnes en alternance. Tu parles du coup de plusieurs milliers de bestioles.
Ouais.
Du coup, t'as pas l'impression que des fois c'est un peu du sous-effectif de gardiennage, enfin, tu vois, même en fait, qu'il y ait des loups ou pas de loups, tu vois.
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, un berger qui a un troupeau de 200 ou 300 brebis. Déjà, ça, en fait, déjà, pour moi, ça représente beaucoup, tu vois. Enfin, déjà, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup, tu vois. Et
pour moi, c'est rien du tout, 200 ou 300
brebis. Pour toi, c'est rien du tout, mais du coup, tu dis qu'en fait, le loup, c'est un facteur de stress. Mais si tu avais 200 brebis, en fait, peut-être que le loup serait vachement moins un facteur de stress, en fait. Moi, je pense que l'histoire des effectifs, il est hyper important. Comme
les
tu
effectifs,
disais, par exemple,
je peux finir.
Ouais. Genre, juste comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'un troupeau de 3000 brebis ou même 2000, il va se scinder. C'est forcé, c'est obligé. Un troupeau de 200, il ne se scinde pas déjà. Donc déjà, tu as beaucoup moins le problème de savoir où il va parce que tu sais où il est. Si tu as un ou deux patous pour 200 brebis, bah, en vrai, ça change déjà la donne. Et toi, tu es à côté de toutes tes brebis. Donc tu vois tout ce qui peut se passer.
Oui, mais sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je suis allée chez un copain berger dans les Écrins. Il avait 600 brebis, donc ce n'est pas énorme. Ça reste un petit troupeau. Il y avait des patous, il n'y avait jamais eu d'attaque de loup. Le lendemain que je suis arrivée, il y avait 5 brebis complètement bouffées pendant la nuit, alors qu'elles étaient en parc électrifié. Et pourtant, ça n'a pas empêché l'attaque de loup, quoi.
Est-ce qu'il y a des patous, du coup, autour du
Ouais, il y a des patous. Les patous aident quand même à faire fuir le loup, mais...
Parce que, tu vois, moi, ce qui m'a choqué dans ce que tu as dit, là, le truc primordial qui m'a le plus choqué, tu vois, c'est que tu as dit 3200 bêtes pour un chien de conduite. Du coup, je me demande comment c'est possible,
oui,
tu vois,
là,
d'envoyer en
esquive
3200 bêtes, comment les gens, tu vois, c'est pas responsable du tout.
Non, vois, mais ça, c'est parce que le berger s'est barré. S'il y avait eu le berger avec moi, lui, il avait ses chiens, mais sauf qu'il s'est cassé. Et que
ouais, puis il y a personne qui a pallié au manque. Je sais pas, tu vois, mais tu restes quand même 3000, avec 3200 bêtes, c'est juste abusé. Et juste, je pense que les êtres humains, ils sont jaloux du loup qui, du coup, en fait, il est arrivé, tu vois, dans un cas avec tes 600 bêtes que tu faisais de ton pote à esquiver la barrière. Quand il y a beaucoup trop de bêtes, clairement, il arrive à esquiver les peu de chiens qu'il y a et les peu de bergers qu'il y a et à prendre une bête. En fait, ils sont juste jaloux que le loup il est assez intelligent pour nous niquer la gueule et pour prendre sa bouffe. Quoi,
ouais, je sais pas si c'est ça, mais non, je pense que ça va plus loin que ça. C'est un peu prendre les éleveurs et les bergers pour
non,
les
blaireaux. J'ai dit l'être humain, mais... j'ai pas parlé, tu vois, spécifiquement.
C'est clairement, tu vois, une activité, l'élevage en montagne, c'est clairement une activité en fait qui manque d'effectifs. Ça, c'est clair et net. Pourquoi? Parce que ça paye pas en fait. Parce que c'est en
un problème clair avec le.
Oui, et puis même la filière du coup au vin, c'est juste en France un peu de la merde. Je veux dire,
oui,
si tu fais pas du roquefort ou autre chose subventionné en AOC, t'as pas de rendement, tu fais pas de thunes. Donc de toute façon, c'est des métiers où tu fais pas de thunes, donc forcément ils payent pas. Donc du coup, il y a personne pour gardienner. Mais du coup, maintenant, on a des bêtes du coup qui sont venues naturellement et qui sont présentes et qui ont leur place sur le territoire. Il va falloir faire avec. En Espagne, ils ont toujours fait avec. En Italie, ils ont toujours fait avec. En France, il va falloir qu'on fasse de même. Franchement, il n'y a pas de raison que, tu vois, dans les autres pays européens, ils fassent avec des prédateurs qui ont leur place dans l'écosystème et que nous, en France, on n'arrive pas à faire la même chose. Moi, j'ai du mal à comprendre ça, tu vois. Et pour avoir vu des arguments, tu vois, de personnes, des mecs de l'ONCFS, des bergers qui font des conférences, des trucs vraiment... voilà, c'est les mecs qui savent de quoi ils parlent aussi. Et ben, franchement, c'est... Ce que tu dis, tu vois, moi, ce que tu me dis, ça m'inspire... Juste, mais putain, mais comment c'est possible, tu vois, de partir en estive avec autant de bestiaux et aussi peu de protection, enfin, tu vois, c'est juste
autant
incohérent.
Je dis autant de bestiaux, mais en fait, sur cette montagne, le président du groupement pastoral, donc un éleveur, parce que c'est un groupement d'éleveurs qui loue la montagne, et donc, avant d'être éleveur, il a été berger, et il a été berger pendant 10 ans sur cette montagne, il la connaissait par cœur, et à cette époque-là, il n'y avait pas de loup, il y avait 3800 brebis, et il était tout seul. Donc,
il n'y avait pas de loup.
Il n'y avait pas de loup, non, non, non. Mais les aides-bergers, ils ne sont pas censés garder. Enfin, c'est... Je suis d'accord, le fait qu'il y ait beaucoup de brebis, ça peut, dans mon cas, être un facteur de ceci, cela. Mais la plupart des bergers, ils n'ont pas 3000 brebis. Et, les brebis, enfin, il y a des attaques de nuit, il y a des patous, il y a tout ce qu'il faut comme mesure de protection, en fait.
Après, moi, ce que je me dis, c'est il y a un moment donné, enfin, je ne sais pas, moi, mon avis, il n'est pas hyper tranché, hyper tranché. Mais ce que je me dis, en tout cas, c'est que, par exemple, les poules, elles se font bouffer par les renards. Les brebis, elles se font bouffer par les loups. Il y a plein de trucs comme ça, en fait, qui font qu'il y a une opposition entre les animaux d'élevage et les animaux à l'état naturel, ou je ne sais pas si on appelle ça sauvage ou quoi. Voilà. Et en fait, il y a un moment donné, il va falloir qu'on fasse avec les deux, quoi. Enfin, je veux dire, élever des animaux, ce n'est pas créer de la biodiversité. C'est faux, quoi. Enfin, l'élevage, ce n'est pas de la biodiversité.
Même, ouais.
Du coup, si on veut... Alors, on peut dire ce qu'on veut, ok, d'accord, moi franchement je compatis vraiment avec tous les bergers qui perdent des animaux, surtout ceux qui aiment leurs animaux, ce qui n'est pas le cas de tous les bergers, mais ce qui est souvent le cas, et en fait je compatis vraiment, tu vois, et c'est triste de voir des animaux se faire attaquer et se faire buter, mais d'un autre côté, comme tu le disais toi-même, en fait ces animaux-là, ils sont faits pour être butés par les humains, donc il y a un moment donné, il faut être un peu cohérent, on est triste de les voir se faire buter par des loups, mais on n'est pas triste de les buter quand on les envoie à l'abattoir. Enfin, si, on peut l'être aussi, mais
oui,
je sais pas, il y a
une
contradiction
une
là-dedans,
vision.
Je pense, enfin, tu vois, c'est... Et après, on se plaint parce que, voilà, réchauffement climatique, blabla, l'environnement, et derrière, on va... Bon, bref,
mais
tu vois la contradiction un peu.
Je vois, mais
avant,
par
quoi.
Exemple, les éleveurs, ils me disent, je les aime, mais je... Enfin, exemple, dans le Kerala, à Guillestre...
Je trouve ça bizarre que les éleveurs, ils aiment pas les animaux sauvages, tu vois. En fait, s'ils aiment leurs brebis, pourquoi ils aiment pas les autres animaux
Mais parce qu'il y a des attaques, s'il y avait pas eu d'attaques...
Ouais, bon, à un moment donné...
Faut bien qu'ils bouffent, hein, les loups.
Allez, bon...
Mais tu peux élever des animaux et aimer les animaux, quoi. Pour moi, ça n'a aucune contradiction.
Et
les tuer et les manger, en fait, aussi, quoi.
Mais du coup, il est où le problème
Bon, allez, vas-y, on est en train de s'enliser dans le petit débat. Mais en tout cas, c'est cool, le papier. C'est bien aussi d'avoir des retours d'expérience et d'en discuter. Et bien, on enchaîne sur la suite. Je crois que c'est mon générique qu'il faut que
tu... Et attends, moi, j'avais une petite musique, quand même, histoire de faire une petite interview.
D'habitude, on fait pas ça dans cet ordre-là, c'est pour ça. J'ai été troublé.
මගේ ආදරේ හොහෝ මෙච්චර ලස්සන ඔයා කොහෙද හිටියේ ලස්සන ලස්සන මගේ ආදරේ හොහෝ මෙච්චර ලස්සන ඔයා කොහෙද හිටියේ ඔයා මගේ ආදරේ ඔයා මගේ ආදරේ බුදු අභිහිංසකාමි මගේ මන ලෝල දේවි ආදරේ
C'est pas ça que je voulais mettre.
Alors, c'était pas la musique choisie, mais c'est pas grave.
Ça, ah, moi, on m'a dit menu menu dans mon train de fer.
Eh bien, c'est, donc, on va pas pouvoir désannoncer cette musique, malheureusement. Alors, le débat sur le loup a continué pendant cette pause musicale. On ne vous en fera pas part.
Non, c'est beaucoup trop mouvementé.
Voilà, et on va enchaîner directement sur mon générique, parce que c'est moi qui fais la prochaine truc.
Mais vas-y, tu me voles. Oh, c'est à moi que tu parles. C'est, mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Vas-y, gollerie, non mais quoi, tu... Moi j'en ai plein de cul super sur putain de système tous les jours comme un connard. On est là, on vit dans les trois rats comme des merdes et quoi. Qu'est-ce que tu fais quelque chose toi pour changer quelque chose? Tu bouges pas ton cul toi non plus.
I woke up in a girl.
Mais quoi? Elle-mère Mais sa mère en merde, tu es ce
I was a prisoner.
C'est fini, on t'en plus
l'autre jour. Yep, allez, moi je vais vous parler donc de l'Aquarius. Bon, je sais, c'est un sujet un peu mainstream chez les gauchos de notre genre, mais à ce qui paraît, on est quand même en train de parler de l'axe migratoire le plus meurtrier au monde, qui fait même plus de morts que les chasseurs sur 10 ans, tu vois. Quand même, chaque année, tu vois. Donc pour une fois, je vais parler de quelque chose dont tout le monde a entendu parler, mais vous inquiétez pas, je reste dans la thématique sujet badant. Alors, l'Aquarius, c'est le bateau de sauvetage orange que vous avez dû déjà voir à la télé et qui se donne pour mission de sauver les groupes de personnes qui partent des côtes africaines pour traverser la Méditerranée. Alors, jusqu'à il y a peu de temps, c'est Malte et l'Italie qui recevaient l'Aquarius. L'Italie, parce qu'il y a une petite île appelée Lampedusa, encore plus au sud que Malte, et qui recevait donc l'Aquarius et les autres bateaux qui existaient à l'époque avec les personnes qui étaient à leur bord. Ensuite, les migrants pouvaient circuler en Europe à peu près librement jusqu'à se faire choper et expulser pour faire un peu grosso modo, quoi. Virgule.
L'Italie en deuil au lendemain de l'un des pires drames de l'immigration que le pays ait connu. Hier, un navire transportant 4 à 500 personnes a fait naufrage au large de l'île de Lampedusa. Seules 550 d'entre elles ont pu être sauvées. Les secouristes ont déjà repêché plus de 130 corps, mais il reste encore quelques 200 disparus. Nous n'arrivions pas à les sortir de l'eau parce que leurs bras glissaient. Nous n'avons réussi qu'à sauver 20 personnes. Les autres ont coulé sans que l'on puisse faire quoi que ce soit, se désole ce pêcheur. Tous ces gens qui criaient à l'aide, c'est vraiment horrible, ajoute cet autre, qui a réussi à sauver 47 personnes.
Alors ça c'était 2013, alors je voulais pas du tout lancer ce son à cet endroit là, je voulais d'abord parler de comment ça arrivait, donc c'est pas grave, on va faire comme on pouvait, ben ouais, c'est moi qui ai fait le signe, c'est pas du tout la faute de Jean, j'assume complètement la responsabilité dans ce mauvais lancement. Donc je disais, alors qu'est-ce que je disais? Je disais que les migrants pouvaient circuler en Europe à peu près librement une fois qu'ils étaient arrivés à Malte et tout ça, ça c'était il y a quelques années. Alors je dis migrants, je vais faire un petit aparté, je dis migrants, alors on me dit parfois ouais faut pas dire migrants et tout, faut dire réfugiés. Alors, bon, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, je faisais partie d'un groupe, un collectif de soutien aux personnes immigrées. Et du coup, à l'époque, on disait que c'était des clandestins ou des sans-papiers. Alors, parfois, on disait que c'était des réfugiés, mais c'était quand même assez rare. Et en fait, on se disait que c'était complètement con de faire la distinction entre les clandestins et les sans-papiers et les réfugiés. Parce qu'en fait, on a le droit de migrer pour ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'être d'être menacé de se faire égorger par son voisin pour changer de pays, et qu'en fait on voulait pas forcément faire le distinguo, et donc du coup on a essayé de trouver un terme, et assez rapidement il y a beaucoup de collectifs qui ont dit bah, faudrait peut-être dire les migrants, en fait, juste les personnes qui migrent, c'est assez neutre comme terme depuis, et il a tellement été repris dans les journaux, les machins et tout, que de migrants c'est vraiment assimilé, bon bref, voilà, donc je dis migrant parfois, et je trouve que c'est pas plus con que clandestin sans papier, et au moins ça inclut tout le monde, ça inclut aussi ceux qui fuient pas la guerre, ou etc. Donc, je reviens, je disais que c'était mal qui accueillait comme il pouvait. Et puis, les États européens ont commencé à vouloir réglementer la gestion de l'immigration de manière homogène en Europe. Il y a eu le règlement Dublin, règlement européen. Principal objectif de ce règlement, c'est de renvoyer les sans-papiers, qu'ils soient réfugiés ou pas, dans le pays par lequel ils sont entrés en Europe. Comme Malte est un peu petit et... comme Malte c'est un peu trop petit, la France en fait a envoyé un nombre considérable d'étrangers, notamment la France mais d'autres aussi, en Italie entre 2005 et aujourd'hui. Du coup, on oblige des gens à vivre dans un pays qu'ils n'ont pas choisi et dans lequel les habitants sont déjà un peu racistes à la base. Normalement là, il devait y avoir le petit reportage que vous venez d'entendre, qui était un bout de reportage de 2013, le drame de Lampedusa, qui a fait se rendre compte à pas mal de gens que ben, finalement, on parle d'êtres humains qui meurent et que des cadavres d'Africains sur des plages paradisiaques à touristes, et ben, ça fait un peu tâche. Mais bon, le naturel gros connard de l'être humain revenant au galop, 5 ans jour pour jour après cette catastrophe, l'Aquarius, qui est pourtant le dernier bateau de sauvetage des migrants encore sur l'eau, se voit menacé d'un retrait de pavillon, ce qui signifie une interdiction de naviguer. Et si l'Aquarius n'a pas de pavillon, soyez-en sûrs, il y a d'autres bateaux un peu plus gros qui vont venir le chercher au milieu de la Méditerranée en laissant derrière eux les Zodiacs. Déjà que l'Aquarius se bat pour savoir quel port va bien pouvoir accepter son amarrage dès lors qu'il y a des bases années à bord, genre 25 septembre dernier, donc il y a 10 jours, hein, le bateau a mis quand même 7 jours pour pouvoir trouver un port, avec 58 personnes à bord, dont 18 enfants. Alors, on parle quand même de 58 personnes, hein, ça fait 3 personnes par pays européen. Donc les gars, ça va quoi, c'est pas non plus... voilà, c'est une invasion à ce qui paraît, voilà. Et on parle de sauvetage en mer aussi, hein, tu vois, les gouvernements européens sont contre le sauvetage en mer des Africains. Mais quand il s'agit de sauver des Blancs en mer, alors là par contre, tout le monde sauve tout le monde, les sauveteurs sont des héros, les rescapés sont interviewés dans les journaux, et c'est comme en montagne, hein, certains chroniqueurs absents ce soir encore une fois pourraient en parler mieux que moi, mais il y a des sauveteurs en montagne qui se prennent des procès pour avoir secouru des Noirs dans les Alpes. Par contre, si c'est des Blancs, qu'ils soient Français, Italiens, Autrichiens, Suisses, peu importe, là c'est de l'héroïsme. Bon, du coup, hier, l'Aquarius a fait un appel SOS d'urgence pour dire que là, ça pue de plus en plus la merde pour eux et pour les gens surtout qui se noient, et qu'il va falloir un coup de main par beaucoup de monde pour que la situation change. SOS Méditerranée, c'est l'association européenne qui gère l'Aquarius, fait un appel à des manifestations et lance une pétition, tout ça, tout ça. Bon, j'avoue, c'est pas les modes d'action qui me font rêver, mais apparemment, il y a une manifestation à Montpellier ce samedi après-demain. Donc, si vous nous écoutez en direct et s'il y a de la motivation pour que des gens y aillent, c'est plutôt cool. Sinon, ouais, je disais, il y a une pétition aussi. Si vous tapez Aquarius pétition, vous allez tomber dessus. Et l'idée, c'est d'essayer de faire pression d'une manière ou d'une autre pour essayer d'avoir au moins un pavillon, pour essayer d'avoir au moins un bateau, pour essayer de sauver au moins quelques personnes. Petite musique et on revient derrière. Thank you.
Il y a cul de l'église sur Radio Saint-Taf. Voilà, de retour, c'était les Twinkle Brothers avec Faith Can Move Mountains. Voilà, on y croit toujours, mais de moins en moins quand même. Hein.
Non, c'est chaud quand même.
C'est quand même un petit peu chaud quand même. Ben voilà, Yvounette, tu parlais de quoi toi ?
De je parlais de quoi ? Ben, vous allez
il va parler
suite,
de quoi ?
Il va parler voilà. De quoi ?
Tu cherches les problèmes?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Et oui, bon, ben voilà. Donc, je suis venu vous parler, mais... Ouais, bon, c'est bon, les gars.
Ok, c'est bon, on se détend.
Allez, on
bon.
Se calme. On respire, ça va aller.
Oui, bien sûr. Vas-y, on est avec toi.
Donc, moi, je suis venu vous parler du cher pays dans lequel on vit. Donc, pour commencer, nous sommes dans une république démocratique. Donc, selon Wikipédia, une république est l'ensemble des biens, des droits, des prérogatives, de la puissance publique et des services propres à un État, dont la forme de régime politique est la République. Elle est accessible également à tous ses citoyens et la propriété collective de tous. Voilà. Et démocratie désigne le plus souvent un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir. Alors, personnellement, après avoir lu ça, je me dis, mais quoi ?
Ça ressemble le truc,
pas vraiment à la société dans laquelle on vit, et à vrai dire, de moins en moins.
Ben non, il y a les ordonnances.
Bref, après ça, je me dis, bon, concrètement, c'est quoi le texte de base qui régit l'État français ? Donc, la constitution de la 5ème République.
Tu sais qu'elle a 60 ans aujourd'hui ?
Ouais, bah oui, elle est de 58. Aujourd'hui même ? Ah, bah, j'ai pas fait exprès, tu vois, mais voilà.
Magnifique. Oh, franchement, Yves, t'as joué.
Donc, cette constitution, elle contient 89 articles, c'est sur le site de l'Assemblée, hein, qui parlent de la souveraineté du président de la République, du gouvernement, du Parlement, des rapports Parlement-gouvernement, des traités et accords internationaux, du Conseil constitutionnel, de l'autorité judiciaire de la Haute Cour, de la responsabilité pénale des membres du gouvernement, du Conseil économique, social et environnemental, du défenseur des droits, des collectivités territoriales, des dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie, de la francophonie et des accords d'association, de l'Union européenne, de la révision. Bref, bon.
C'est beaucoup de choses, quoi.
Voilà.
Bon, déjà, ça, c'est juste les titres des articles, mais perso, ça me fait me dire encore plus que c'est vraiment un gros foutage de gueule. Mais on arrive au plus beau. Après les 89 articles, il y a le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Charte de l'environnement de 2004. Voilà. Et pour finir, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors déjà, ils n'ont pas choisi celle de 1793, mais ça se comprend car elle contient un article, le 35, qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
Ouais, mais celle-là, elle a été écrite par les révolutionnaires.
Oui, c'est en 1793, c'est pas celle de 1789, oui, c'est oui. Bien ce que je dis. Donc, on comprend bien qu'il n'ait pas choisi cette version-là, quoi, voilà. Donc, sinon celle de 1789, celle qu'ils ont choisie, elle dit en préambule, les représentants du peuple français constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Voilà, enfin, après ça continue, mais c'est juste la petite partie que je voulais vous faire passer. Donc ça c'était juste pour dire, hein. Mais après il y a les articles. Donc le premier, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc si je lis bien, il y a marqué les hommes, donc tous du coup. Pourquoi on rejette des gens aux frontières ou qu'on les parque dans des centres de rétention? Ça veut dire qu'il y a des lois qui sont anticonstitutionnelles vu qu'elles ne respectent pas les droits de l'homme
de
1789.
Il y a un conseil constitutionnel
et qui font, font partie de la Constitution. Ben oui, on en parle même dans la Constitution, du conseil constitutionnel. Je l'ai cité dans les titres tout à l'heure. Mais du coup, il ne fait pas son taf le truc parce qu'a priori, il y a marqué...
Bah, t'as qu'à aller au conseil constitutionnel, tu leur dis.
Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc ça veut dire que tous, en fait, c'est pas ceux qui sont nés en France, c'est tout le monde, tu vois ce que je veux dire?
Oui,
dire que les lois qui empêchent l'Aquarius, par exemple, de débarquer des gens, ben, c'est anticonstitutionnel, vu qu'il y a marqué « tous les hommes naissent libres et demeurent libres et égaux en droit ». Donc voilà. Bref, après il y a l'article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors là, je vais pas balancer les noms de plein de partis et d'hommes politiques, mais franchement, la conservation de la liberté et de la résistance à l'oppression, là je dis foutage de gueule encore une fois. Bon, je vais pas durer beaucoup plus longtemps sur le sujet, mais il y a une dernière blague quand même, c'est l'article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Voilà.
Alexandre Benalla, m'entends-tu?
Par exemple. Voilà. Bref, et dans les ZAD et ailleurs, bref. Donc perso, bon, le texte de base, je suis pas forcément d'accord avec, mais bon, si on est partisan du moins pire, pourquoi pas? Mais en fait, tout ça est une vaste blague.
Faites-le résonner. Allez, il faut qu'on entende.
sang. Pour envoyer, au pénitencier, au lieu de t'aider, au lieu d'écouter, quand tu sortiras, pour rien pour toi, tu recommenceras. Quelle est la loi? La, 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 la. Allez, faut jouer. La, 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 la. Merci à tous. La, 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 la. Et tu le futur, pour les petits durs. Et tu le futur, pour quatre murs. Et que t'inquiète, pour les enragés. Et que t'inquiète, pour les cols carcés. Vous l'avez dénudé, vous êtes inquiété, vous l'avez envoyé, vous l'avez pensé, vous l'avez caché. La, 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 la.
Allez, allez, non.
La, 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 la.
Allez, faut gueuler.
La, 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 la. La, 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 la. Et quel est le futur pour les petits durs? Et quel futur entre quatre murs? Et quelle société pour les enragés? Et quelle société pour les gueules cassées? Et quelle société pour les têtes brûlées? Pour les agiter, pour les pénétrer? Et quelle société pour les verrouiller? Pour les défoncer, pour les détracher? La, 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 la.
C'est pas
les, les berrues, avec vivre libre ou mourir.
Non.
Voilà. Et oui, mon sujet était aussi
c'est
un peu simpliste, mais voilà.
C'est une nouveauté.
Mais non, c'est un truc vieux, comme d'habitude, c'est moi. Comme la Constitution, quoi.
Ah, ça, voilà, c'est une nouveauté.
Un peu moins vieux, beaucoup trop vieux.
Allez, ça commence à partir en cacahuète. C'est le moment pour nous de vous dire au revoir.
Ah oui, moi, Flex, je passe un petit bonjour à Rodolphe. J'ai pas mis le son qu'il m'a demandé, mais quand même, je lui passe le bonjour. Il nous écoute depuis le Doubs. Voilà, il vient de l'Aveyron, ça fait longtemps qu'il écoute.
Un Doubiste, on dit Doubiste.
On dit Doubiste pour les mecs qui vivent dans le Doubs.
Franchement, tu veux pas mettre Doubi après, juste après l'émission Doubi de Josman, là, comme ça on fera un gros big up à Rodolphe qui est doubiste.
Voilà. C'est où le Doubs?
Vers Besançon, Jura. Voilà. Le Jura, patron de Strasbourg.
Et on fait des bisous à tous les doubistes qui nous écoutent.
Voilà. Pas les rappeler tort, hein.
Allez, du coup, on se dit à la semaine prochaine, jeudi, 20h, même heure, même station, même fréquence. Voilà. Dimanche, c'est à midi la rediffusion dimanche.
Donc, allez, on nous a dit ça.
Donc, sortie de messe, surtout, vous allumez votre poste.
Le cul de l'église.
C'est très important.
Le cul de l'église.
C'est très très important, voilà. Et on vous souhaite une bonne soirée. Pas d'autre émission ce soir, pas de 12 BPM, pas de frères de chaussures, mais un de ces quatre, ça va arriver.
Des gros bisous.
Allez, allez, ciao,
bisous.
Ciao.
Bonne
salut.
Soirée.
Yeah. Aujourd'hui je taffe pas, je me lève, j'allume un doubi. Antipsychotique pas prescrit par le toubib. La tête à l'envers, le veau serre comme une toupie. Ta gueule, tu la fermes mon frère quand tu parles on soupire. Je deviens faible quand elle ne porte pas de soutif. On est hal, on est yum, on est fucked up, mais y'a pas de soucis. Sourcils froncés, j'oublie de pioncer, faut de la beuh, j'passe un coup de fil. Tous les jours c'est la même merde, pour s'en sortir on vit pour le bif. Eh, rate au passement de jambes crochet et j'arrive dans ce truc comme R9. J'suis toujours fourré, toujours fourré.